Écoutez, je remercie d'abord mes collègues de m'avoir invité à présenter cet ouvrage, qui est effectivement le travail de 15 ans de longue gestation, 6 années de recherche intensive sur le terrain et le reste sur mission chaque année pour actualiser les données. Je représente effectivement ici mon collègue Pavithrananda Mota, qui est lecturer au senior lecturer au Mahatma Gandhi Institute, MGI, et sans lequel le sujet de ce travail n'aurait pas pu être développé, car il est exclu que j'ai pu recueillir un certain nombre de données sur la religion indienne et je dirais d'une manière générale sur la société indienne sans sa médiation. Je vais dire un certain nombre de précisions. Cette société ne se parle pas, n'énonce pas verbalement ni ses conflits, ni ne produit de véritables analyses sur sa réalité. Son mode d'expression est totalement symbolique, c'est pourquoi le sujet de ce travail qui est les cultes populaires est un angle d'attaque tout à fait transversal sur la transformation contemporaine de cette société. Je ne le savais pas totalement au départ. Au départ, j'ai choisi les cultes populaires parce que ayant déjà fait un travail sur Madagascar, j'intuitais d'une certaine façon qu'à travers un travail qualitatif fin, je pourrais peut-être effectivement apporter quelques généralités à d'autres approches. Mais finalement, ce sujet qui apparaissait presque archaïque pour la plupart des chercheurs et universitaires locaux qui travaillaient sur le même terrain. Ils travaillaient essentiellement sur l'immigration indienne ou sur l'esclavage. Ce sujet-là paraissait totalement ésotérique et n'intéressait guère de monde, sauf moi-même et le chercheur avec qui j'ai travaillé, donc Pavi, avec qui nous avons fait équipe. Et en quelques 15 années, ce sujet est devenu un sujet d'actualité, tout à fait porteur, à tel point que à l'île de la Réunion, en mai prochain, est organisé un colloque sur les cultes populaires. Je crois qu'entre-temps, on a compris à quel point ces données symboliques, apparemment sans signification particulière, peuvent avoir une grande généralité à condition d'avoir une méthodologie pour les traiter. Donc on aura bien compris que pour aborder cette question de l'hindouisme mauricien, il a fallu développer une méthodologie en rapport avec les données que je recueillais. Au point de départ, je n'avais aucune connaissance de la religion hindoue. Je dirais même comme une occidentale ou quelqu'un qui émane d'une religion monothéiste, cette religion hindoue me paraissait particulièrement difficile d'abord. Les multiples représentations et les multiples divinités, donc ce panthéon des divinités, je m'y perdais complètement, je n'y comprenais quasiment rien. Donc je dois dire que la construction que les interprétations que je vais vous présenter dans cet exposé sont des interprétations qui ont été construites progressivement au fur et à mesure que les données s'accumulaient. Et l'autre aspect de ce travail, donc du point de vue méthodologique, c'est que il y a effectivement une partie d'entretiens qui ont été enregistrés, mais ils ne portent nullement ni sur l'analyse de la société, ni sur les conflits, comme ça aurait pu être le cas, par exemple, comme ça a été le cas quand j'ai travaillé à Madagascar. Mais ils partent essentiellement sur les divinités, les représentations sur les divinités, etc. Et c'est la teneur de ces entretiens. À cela se sont ajoutées des données, des observations directes de ces différents lieux de culte à différents moments, puisque je suis restée à l'île Maurice où j'ai pu actualiser les données en 15 années. Je photographiais les différents lieux de culte et les différentes cérémonies auxquelles je participais à chaque fois. Et c'est à travers ce regard ces photos que je pouvais revisualiser, que je comprenais qu'il y avait eu des transformations au sein de l'espace symbolique des mêmes cultes. Si je n'avais pas photographié, je n'aurais pas mémorisé ces changements et je ne les aurais sans doute même pas vus. C'est un terrain, donc, on l'aura compris, qui était très nouveau pour moi. Et la troisième nouveauté de ce terrain consistait... Donc c'était la première fois que je travaillais sur un pays de colonisation britannique. Et là encore, il a fallu que je change complètement de lunettes par rapport à un pays comme Madagascar qui était de colonisation française, car le modèle colonial britannique est très différent du modèle colonial français. Disons que les Français, lorsqu'ils ont colonisé les pays où ils se sont implantés, mettent en valeur le pays d'abord, construisent un État très centralisateur, très hiérarchique, alors que les Anglais ont un modèle plus, je dirais, insulaire de colonisation. Avec une conception de l'État beaucoup plus distanciée, presque aussi virtuelle que réelle, qui n'intervient ou qui n'intervient dans le jeu institutionnel qu'à certains moments où c'est nécessaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les select comités, durant lesquels, pendant un certain temps, une question va être instruite avec tous les partenaires, y compris les opposants, donc qui vont être réunis un certain temps, le temps qu'une décision puisse être prise, pas forcément consensuelle, mais où la majorité s'est dégagée, en tout cas une décision se prend. Donc le système anglais est très très différent, et en particulier il tient à la manière dont l'État gère les rapports avec la société colonisée. Alors, je vais vous dessiner un peu très rapidement la généralité du travail en commentant très rapidement la composition de l'ouvrage. La première partie de cet ouvrage, c'est simplement une percée sur la société mauricienne contemporaine, mais vue d'un point de vue génétique, pour arriver à comprendre la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, les anciens clivages coloniaux, institués durant la colonisation britannique, perdure encore aujourd'hui autour de deux concepts clés de la société mauricienne. La notion de population générale qui a réuni l'ensemble de la population qui a appartenu au système français de colonisation et qui était naturellement de religion monothéiste, chrétienne, disons plus exactement catholique. Et puis les autres migrations de population d'origine asiatique qui ont été identifiées dans les catégories censitaires, catégories constitutionnelles de l'État, comme étant des groupes ethniques. Donc cette dualité de l'organisation ou de la différenciation au sein de la colonisation anglaise perdure encore aujourd'hui dans l'exacte mesure où la population générale est encore une catégorie statistique qui existe maintenant. Ce qui fait que le système social-politique de cette société multiculturelle, on l'appelle une pluriculturalité, consiste à gérer les rapports différenciés d'origine, ethnique ou raciale, de couleur, différence de couleur, de telle manière que au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, chaque groupe soit représenté. Est prévu dans ce système que le meilleur perdant, le best loser système, aura une représentation au niveau national. Et ça, cela joue un rôle très très important dans les stratégies électorales, parce que quand on est un groupe démographiquement minoritaire, comme c'est le cas de la plupart des groupes, le groupe majoritaire démographiquement parlant est le groupe indien, qui est réuni autour de la notion de religion hindoue. Ils ont plus que la majorité absolue. Et bien évidemment, au moment de l'indépendance, c'est le groupe qui a émergé politiquement et qui gère encore aujourd'hui l'appareil d'État mauricien. Et tous les autres groupes minoritaires doivent avoir des stratégies à travers les partis nationaux pour placer un lieu ou un autre dans une circonscription électorale ou une autre, suffisamment avoir un pourcentage de voix qui les place comme best loser. Donc, tel est à peu près le système du best loser. Et ça intervient de façon très importante, disons, dans la mesure où la société ne peut fonctionner en dehors de stratégies, je dirais, ethniques, de castes et de différenciations d'origine géographique, plus ou moins raciale. Et c'est effectivement un des traits dominants de la société mauricienne contemporaine. Alors, la partie de la société mauricienne que j'ai traitée, la société indienne, qui est de religion hindoue et qui est majoritaire démographiquement dans la société globale. L'autre point que j'aimerais vous dire, donc cette première partie énonce la dualité structurelle de la société contemporaine. Et pour aboutir, et là je ne pourrais pas vous le détailler, à une réflexion sur la dualité du mode d'intégration sociale politique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, j'ai le sentiment qu'il existe deux modèles de capitalisme qui est plus ou moins complémentaire et concourant l'un vis-à-vis de l'autre. Le modèle asiatique et le modèle, je dirais, quasi occidental. Et il est et ces deux modèles participent aujourd'hui au processus de mondialisation et est impliqué dans le processus de mondialisation. L'autre donnée qui est très importante à avoir en mémoire, c'est de se rendre compte que la religion indienne est très différente, et également pas uniquement l'État, mais la religion est très différente hindoue, est très différente de la religion d'une religion monothéiste. Je dirais que pour évoquer une image, c'est un système galactique dans lequel tous les éléments du système comportent la totalité des paramètres. Chaque élément du système galactique tourne, donc chaque pôle multipolaire tourne autour de lui-même et tourne autour de l'essence de la divinité principale. Donc quand il y a un changement de positionnement d'une divinité par rapport aux autres, il n'y a pas de changement de structure, il y a simplement un changement, l'ensemble du modèle se déforme d'une certaine façon, mais la structure reste. Et ça, c'est une chose très différente. Et c'est ce qui caractérise la société de différenciation statutaire avec les différences de caste, qui s'oppose à une société, à la société, je dirais, de modèle symbolique chrétien occidental, dans lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont plutôt en rapport hiérarchique. Et je voudrais vous rappeler à ce propos l'excellente analyse de Max Weber avec l'esprit du protestantisme et le développement du capitalisme. On voit bien comment on peut exploiter à travers toute l'analyse de la symbolique d'une religion, comment on peut en déduire ou du moins caractériser un modèle économique et politique. Donc voilà un peu les éléments qu'il faut connaître, et ça c'est la première partie. Le deuxième chapitre de cette première partie a consisté à simplement rappeler que aujourd'hui les formes historiques de la mondialisation sont instrumentalisées de toutes les manières possibles, ce qui a donné à notre sujet sa valeur d'actualité. Et en deuxième sous-partie de ce chapitre, j'ai présenté la problématique de ce sujet avec les méthodologies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec l'approche à la fois observation directe, entretien, participation à des cérémonies pour voir un peu comment les rapports sociaux se jouent dans le temps cérémoniel, également, et pour comprendre aussi quel rapport établir entre ce système symbolique et des rapports sociaux en pleine transformation. La deuxième partie, c'est une présentation des Kalimaï, une typologie des différents Kalimaï de la région de Flak, qui est la côte est de l'île. Et pourquoi cette région-là? Parce que c'est celle où les Kalimaï sont rénovés, sont toujours actifs, alors que dans la région du Nord, ils étaient plus ou moins en train de se dissoudre dans les temples ou entraient en déshérence. Donc c'est effectivement le foyer des Kalimaï, le lieu où les calimailles pouvaient être le mieux étudiées, c'était la région de Flacq. Et là, nous avons mené une étude presque systématique de tous ces calimailles. Alors, je vais faire défiler, je ne sais pas si nous avons déjà les photos possibles. Je voudrais présenter ce qu'est un calimaille en faisant, donc la deuxième partie, c'est la typologie des calimailles. Je vous ferai défiler les différentes photos et vous verrez que un culte de Kali peut a une forme différente, une architecture très différente selon les cas. La troisième partie est une effervescence et la traite des cérémonies, des pratiques cérémonielles, des stratégies, bien sûr, qui sont derrière ces cérémonies à travers les sociétés de calimailles qui sont reliées à des fédérations nationales. Donc, l'étude fine d'un certain nombre de cérémonies nous amène à comprendre directement les jeux sociopolitiques qui ont cours dans le déroulement cérémoniel. La dernière partie, enfin, est la partie que je dirais la plus théorique, on va dire plutôt la plus généraliste, qui reprend l'ensemble des données qui ont été présentées dans les trois précédentes parties pour faire une réflexion sur le rapport État-religion-société, donc eu égard à la mondialisation des marchés. Et alors, là, d'ailleurs, le dernier chapitre de cette partie s'intitule le New Deal, hein, donc la nouvelle donne. Hein. Et ce New Deal, c'est la recomposition, c'est-à-dire que la mondialisation de l'île Maurice, qui est dont je rappelle que c'est un pays nouvellement industrialisé, qui est arrivé au stade 2 de son développement après une période de zone franche pour employer la main-d'œuvre peu qualifiée, arrive maintenant à la deuxième phase où ils ont créé des sociétés de haute technologie. De la même façon, les entreprises textiles qui sont à l'île Maurice sont hautement, les fabrications sont hautement technicisées. Hein. Et maintenant, les bassins d'emploi pour la main-d'œuvre non qualifiée, c'est Madagascar pour l'île Maurice. Hein. Donc, ce New Deal, il y a recomposition de tous les marchés, le marché du travail, le marché foncier, parce qu'il y a eu restructuration des sociétés, de toutes les sociétés de l'économie sucrière, qui étaient auparavant, je ne sais plus, on est passé de 18 et il n'en restera plus que 3 au bout du compte, il en reste aujourd'hui 5. Imaginez que cette transformation s'est faite à partir, disons, ça a commencé en 95. Ça véritablement, on a vu les changements à partir de 2000 et en 2005, ça s'est accéléré véritablement. C'est-à-dire qu'on a très peu donné de temps au temps pour que cette société puisse se rééquilibrer avec des licenciements économiques dans le secteur sucrier, des licenciements économiques dans les industries textiles qui fermaient au profit de l'arrivée de nouvelles industries textiles plus technicisées. Hein. Et donc ça c'est... du point de vue foncier, c'est que lorsque les sociétés sucrières se restructurent, elles vendent leur patrimoine foncier. Et il y avait donc plus de 1700 arpents de terre qui ont été libérés au centre, donc sur les plateaux de l'île Maurice, qui étaient mis sur le marché foncier. Donc on a une recomposition complète de tous les marchés, ça va vite, la transformation se vite et se fait très vite, et elle s'enregistre, on la voit quand on connaît un tout petit peu les villes, etc., on la voit dans le paysage urbain, dans le paysage rural, etc., ce qui facilite bien évidemment la liaison que je voulais faire entre État, marché, religion et à quoi se rapportaient ces changements symboliques que j'observais dans les cultes. Donc voilà, j'ai un peu balisé la logique de cet ouvrage. Et maintenant, je voudrais d'abord vous préciser ce qu'est un calimaille à travers un certain nombre de photos. Il faut que j'aille assez vite. Et ensuite, j'ai choisi de vous parler... Pardon ? Ah oui, si tu veux, bien, peut-être on peut faire comme ça si jamais ça ne marche pas. Voilà. Alors, les premières photos concernant les différents calimailles pour bien montrer, mais moi j'ai besoin des photos pour j'ai besoin des photos pour 4 minutes. Bon, d'accord. Alors, je vais d'abord vous définir ce qu'est un calimaille. Le calimaille, c'est un lieu de culte d'abord, hein. C'est le lieu de culte de Kali, la divinité principale. Mais c'est à la fois un lieu de culte, c'est aussi une cérémonie de Kalimaï, et cette divinité, on appelle ça aussi le culte des sept sœurs. Mais les sept sœurs, c'est une symbolique très particulière, qui sont des formes différentes d'une même représentation divine, d'une même essence divine. Et c'est ça qui différencie la religion hindoue considérablement de religion monothéiste. Donc Kali est représentée sous cette forme différente. Mais en même temps, ces sept divinités qui sont sur le même autel de Kali, ont toutes un nom, donc elles ont un nom différent chacune. Elles sont l'objet de chants particuliers chacune. On leur offre on leur fait des offrandes chacune particulières, et elles sont aussi l'objet de rites différenciés. Donc on voit qu'à travers simplement en regardant uniquement l'autel de Kali, on imagine bien évidemment la différenciation, donc la complexité des rapports sociaux que ça met en jeu, le Kalimaï. Ensuite, donc ça c'est donc il y a l'autel de Kalimaï, et dans l'espace des Kalimaï, vous avez c'est un espace ouvert, hein. D'ailleurs, je devrais dire que le culte de Kali est originellement, hein, historiquement, un culte du dehors, et nous allons voir qu'il se transforme en culte du dedans. C'est ce renversement symbolique qui est très intéressant et à rapporter aux changements sociaux qui ont cours actuellement avec la mondialisation des marchés. Donc, dans l'espace du Kalimaï, toute végétation, petit arbre, fleurs, petit arbuste, végétation est une divinité. Je dirais même plus, la divinité Di, qui est une divinité qui est intrinsèquement liée au Kalimaï, en tout cas à l'île Maurice, représentait initialement le colon blanc. Ce qui veut dire que cette religion hindoue a quelque part, sur le plan symbolique, naturalisé les rapports de domination qu'ils vivaient dans le cadre de l'industrie sucrière, où ils étaient des travailleurs salariés contractuels, très peu payés, vis-à-vis du capital. Mais la présence symbolique du blanc est symbolisé donc dans l'ordre du Kalimaï. Donc cette divinité dit est un arbre enraciné, et ça réfère à quoi? À l'enracinement premier des migrations à l'île Maurice, qui les premières migrations ont été des migrations européennes, avec l'installation après la période hollandaise portugaise des Français. Et donc c'est le premier enracinement, et c'est à l'époque française que s'est développé un cadre juridique d'appropriation foncière. Donc c'est d'une certaine façon une reconnaissance, cet enracinement premier. D'autres divinités existent dans l'espace du Kalimaï qu'il est important de remarquer, ce sont ce qu'on appelle les divinités tutélaires. Ces divinités tutélaires, elles sont importées de l'Inde par des traditions. Ce sont donc, j'ai eu quelques traditions orales concernant ces divinités, avec toute une mythe de l'installation de fondation première du premier Kalimaï. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'il s'agissait de sept femmes, comme par hasard, hein, et avec ces fameuses divinités tutélaires qui portent également un nom. Donc, Goraya, Saher, Saraswati, ce sont des divinités tutélaires. Et les divinités tutélaires, ce sont d'une certaine façon, symboliquement, les premiers habitants de l'endroit, donc les premiers, par essence, autochtones, propriétaires de l'endroit. Donc ces divinités tutélaires sont très importantes, et c'est elles qui protègent le Kalimaï, et bien sûr, les fidèles qui prient à ce Kalimaï. Vous avez d'autres divinités qui ont un rapport direct avec Kali, en tant qu'elles sont des médiations positives pour accéder à Kali. Et on les appelle des gardiens du Kalimaï. Alors, vous en avez un qui s'appelle Hanuman. Vous avez Hanuman et le gardien des Kalimaï. Et puis vous avez eu l'introduction de Brahma, d'une divinité qui n'existait pas dans le Kalima, il y a une certaine période de l'histoire sucrière où Brahma est intervenu dans les Kalimaï, qui était déjà un premier signe de brahmanisation des Kalimaï. Donc voilà, je crois que donc ces divinités Hanuman et Brahma ne sont jamais sur un même autel. Elles ont des autels séparés, donc toujours des autels séparés, sont dans l'espace du Kalimaï, mais en dessous. C'est-à-dire que Kali est une divinité supérieure, donc le dessus et le dessous, divinité inférieure, divinité supérieure. La gauche et la droite séparent l'espace du Kalimaï entre le pur et l'impur. Ce qui veut dire que le Kalimaï, une fois sa fondation, au départ, a servi la cause de la production familiale lignagère et des règles d'endogamie strictes qui se sont instituées au fur et à mesure de la vie des travailleurs dans les camps. Qui dit endogamie de famille ? Dit naissance à la période progressivement d'une différenciation de caste et naissance des groupes statutaires. Un certain nombre de Mauriciens, d'Indo-Mauriciens, donc les Indo-Mauriciens se divisent en différentes castes, les hautes castes et les basses castes. Vous avez les Babuji Maharas qui sont les hautes castes, les Veishs, appartiennent moins hautes mais des hautes castes, et puis vous avez ce qu'on appelle les basses castes qui sont les chamars, avec deux catégories différentes. Cette division en castes, on va vous dire que à l'origine les premiers immigrants indiens étaient de hautes castes, les old migrants. En réalité, et ça c'est une hypothèse, mais qui est pratiquement vérifiée, les Indiens qui sont arrivés à l'île Maurice n'étaient pas particulièrement de haute caste. La production de l'institution de la caste est une production locale, à travers le système, à travers leur culte et la symbolisation dont les cultes ont été l'objet. Donc c'est une différenciation des familles, des rapports d'alliance autorisés, des interdits de mariage entre les familles, et s'est construit un système de caste analogue à celui qui existe en Inde. Donc c'est une production locale, ça c'est très très important comme pour de le comprendre. Le troisième niveau de compréhension des Kalimaï, et à travers les entretiens que nous avons eus, c'est que ces Kalimaï, qui soient d'organisation familiale ou par caste ou d'intercaste entre eux, hein, dans lesquels il y avait des interdits de mariage, mais il y avait aussi des transgressions d'interdits. Donc il faut bien sûr constamment aménager les choses sur le plan symbolique quand il y a des transgressions. Hein. Ce qui est important de savoir, alors là ça m'échappe ma discussion que oui, dans ces Kalimaï, la différenciation par caste, oui, a été le cadre, donc ces Kalimaï ont été aussi le cadre de la solidarité première des groupes de gens qui étaient dans le même camp et qui étaient associés comme bande de travailleurs sur les champs de canne. Car il y avait effectivement, les travailleurs étaient organisés en bandes de travailleurs où il y avait des sirdars. Et donc, sur le Kalimaï, il y a eu une projection de la division du travail de l'économie sucrière qui s'est parfaitement dupliquée d'une certaine façon. De telle sorte que l'argent était très rare, et lorsqu'il y a eu des restructurations foncières, les travailleurs ont acquis les terres les moins productives, et pour cela il fallait avoir un peu d'argent pour les payer, même si on payait pas cash les terres qui étaient mises au morcellement par les propriétaires de sucreries. Et les Calimailles ont été le cadre des premières, je dirais, banques populaires, des tontines. Hein. Et cette pratique continue encore aujourd'hui. On organise dans les quartiers des villages, on organise encore des tontines. Il est entendu que c'est celui qui organise la tontine qui est le véritable bénéficiaire de la tontine. Au bout du compte, je vous passerai l'analyse de ce système. Et à une étape encore ultérieure, les Calimailles, ça c'est à l'époque plus donc de la fin de la colonisation, ont été le cadre des premières coopératives à la veille, si vous voulez, des indépendances, sont nées les premières coopératives de production, de consommation. Le Calimaille a été aussi le cadre organique de ces rapports sociaux-là. Finalement, la typologie des Calimailles que j'ai faite en première partie distingue les Calimailles d'origine les plus anciens, d'une part, les Calimailles dont l'organisation spatiale symbolise la différence de caste sur laquelle a reposé, d'une part, la fondation du culte, ou sur laquelle porte la décision aujourd'hui de le rénover. Ces Calimailles ont donné lieu à des restructurations de l'espace symbolique, séparant plus ou moins nettement les divinités selon leur genre et leur nature, sur la base de la distinction haut-bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, divinité tutélaire et inférieure, gauche-droite, distinguant le pur et l'impur, haute caste, basse caste. Le troisième type de Calimailles sont les Calimailles à caractère plus collectif, du fait de l'existence de sociétés enregistrées comme des associations 1901. Ces Calimailles ont été modernisées et sont devenues et deviennent aujourd'hui des quasi-temples. Les Calimailles privées d'appartenance familiale pour les familles qui sont devenues des grands planteurs à l'île Maurice et qui ont continué d'exploiter leurs grandes plantations sur un mode collectif familial. Et enfin, les Calimailles à but lucratif, du fait de l'existence d'un devin guérisseur qui a une clientèle, gère lui-même l'endroit et officie dans les cérémonies qu'il conseille d'organiser. C'est dans le cadre de ces Calimailles à but lucratif, donc c'est en fait le devin sorcier du village, il y en a plusieurs dans les villages, et malheureusement j'ai pas pris la photo, j'ai oublié de la prendre, c'est dans ces Calimailles à but lucratif qu'on avait le syncrétisme le plus évident. On avait donc les autels de Calimailles, les divinités dispersées de toutes sortes dans l'espace du Calimailles, jusqu'à des croix représentant le symbole chrétien. Pourquoi ? Parce que tout simplement le devin guérisseur avait des clients créoles qui étaient de religion chrétienne. Alors maintenant, je voudrais vous montrer l'architecture de ces différents Calimailles. La première photo, merci Patricia, cette première photo. Voilà. Bon, ben voilà le grand culte. Ben, ça fait rien. Je vais vous commenter la photo. Hein. Ça, c'est un montage de photos qui présente ici un ancien Hanuman que vous verrez tout à l'heure dans une transformation de Calimailles. Hein, un ancien Hanuman. Là, ce premier Calimailles, c'est un Calimailles très ancien. Vous voyez que l'autel est très simple, en terre battue, sèche. Vous avez les sept pierres. Hein, et ici, vous avez un Calimailles qui a déjà été transformé. Vous avez une grande figurine de Kali. Hein, et devant, vous avez les sept pierres de l'ancien Calimailles. Et ce qu'il faut regarder dans cette photo, qui est très très important, qu'un néophyte ne verrait pas, c'est le trident qui est là, qui représente Shiva. Ce qui veut dire que ce Calimailles a été le cadre de production de la différenciation de caste dans la région. C'est le plus ancien Calimailles fondateur de la région, des différenciations régionales autour de la caste. La deuxième photo, c'est un autre. On peut la photo suivante. Voilà, la deuxième photo, ben vous voyez comme l'architecture est différente, si on peut, on voit que le Kalima et l'autel, toujours pareil. Normalement, c'est un culte du dehors. Et le fait que les Kalima soient recouverts, c'est déjà une transformation. Hein. Le culte de Kali est là. On voit qu'on a construit en béton une petite niche. Et par derrière, vous voyez apparaître des photos de divinités que les fidèles ont déposées sur l'autel parce que c'est leur divinité à laquelle ils sont particulièrement attachés. Encore un autre Kalimaï. Là, on est très près aussi encore des Kalimaï. Non, on a deux tables représentant les sept sœurs de Kalimaï. Hein. La rénovation a juste consisté à mettre de la chaux blanche pour le repeindre. Et au milieu, on a le Brahma. Et dans les cérémonies que nous avons observées dans ce Kalimaï de Vallée des Prêtres, tantôt les fidèles intègrent Brahma dans le jeu cérémoniel, tantôt ils ne l'intègrent pas. Et ça, c'est significatif des rapports sociaux qui s'expriment à l'occasion de cette cérémonie. Autre photo. Alors ça, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Voilà ce qu'est un Kalimaï originel. Vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a des pierres d'une certaine forme particulière arrondies en haut. Mais ce qui est intéressant à voir dans cette photo, c'est que ces pierres ont un trait vertical rouge. C'est un petit peu passé la couleur. Ce qui veut dire que cet endroit de Kalimaï, qui est pourtant localisé un peu loin des villages habités, dans les champs de canne, difficile d'accès, ce qui veut dire que cet endroit est toujours, on y fait toujours des rituels. Or, ce Kalimaï est considéré, il est interdit d'aller dans ces Kalimaï lointains, etc. C'est vraisemblablement le lieu de la sorcellerie dans la région. L'autre Kalimaï, alors là je vais vous montrer plusieurs photos qui vont se succéder d'un même Kalimaï, trois photos. Cette personne-là, vous verrez qu'elle est habillée en sari rouge, ce qui indique déjà son appartenance à à la divinité Hanuman. Hein. Et elle est en train d'honorer l'arbre qui est le dit du Kalimaï enraciné. Elle a allumé un cierge, mis des feuilles qu'on appelle de goulaïti, je ne sais pas la traduction en français, c'est idiot. Et vous voyez le petit pot, elle a fait brûler de l'encens. Donc ça, c'est avant d'entrer dans le Kalimaï, souvent on offre des présents à dit et on entre après dans le Kalimaï. Ensuite, la photo qui vient, on est toujours dans le même lieu de culte. Ça, c'est Beauvallon, hein, qui est le cadre justement de la production des différences de caste. Donc vous voyez, alors... Dans ce Kalimaï, ce qui est intéressant, je ne vous ai pas donné la manière dont ce Kalimaï a été par la suite changé. Simplement, les divinités que vous voyez peintes sur le mur ont été changées, ce qui indique la raison du pourquoi du changement. Et par ailleurs, ils ont fait une enceinte autour du Kalimaï. Hein, et donc, ils l'ont clôturé, ce qui n'était pas le cas hein, des anciens Kalimaï. On ne clôturait pas les Kalimaï, c'était un espace très ouvert. Donc voilà ce Kalimaï, et à l'intérieur du Kalimaï, vous allez voir, c'est la même photo que vous avez vue au tout début, qui représente donc Kali, les pierres et le trident. Et en arrière-plan, vous voyez, d'ailleurs là, cette photo a été prise plus tard, et là, on a beaucoup plus de représentations de photos derrière Kali. Quelquefois, vous savez, le Kali, regardez toutes les photos, quelquefois le mur est plein de représentations et de photos. Hein. Donc la multiplicité des divinités, c'est un fait très très important qu'il faut comprendre et il faut en comprendre la rationalité sociale, c'est ça la difficulté de ce genre d'enquête. Le prochain Kalimaï, alors ça c'est un des Kalimaï rénovés, il y en a beaucoup. Celui-là, quasiment, c'est pratiquement un temple. Initialement, le Kalimaï, c'était juste les marches, hein, Et c'était juste ça. Et ensuite, il y a eu un mur qui a été construit, un auvent, une divinité qui a été placée derrière. On voit qu'il y a de l'argent qui a été dépensé, ce qui veut dire que ce Calimaï est géré par une société 1901 affiliée à la Sanatan Dharma Temple Federation qui donne les subventions d'État. C'est elle qui redistribue les subventions de l'État à ceux qui demandent des subsides pour rénover leur canimaille ou pour faire vivre leur association. Ensuite, donc, voilà, je m'arrêterai sur la présentation de ces différents canimailles. Alors, je dirais, après la typologie de ces canimailles, je dirais que, pour résumer, donc le je vais quand même vous donner le nom pour l'art, le nom des sept sœurs: Durga, Parvati, Kali, Saraswati, Phulmati, Amba, Kankar. Elles sont placées sur l'autel de Kali, c'est les sept formes de Kali, Mais il y en a de nombreux autres dans l'espace des Kalimaï que j'ai pas pu vous montrer ici, qui sont Di et Saer qui gardent le Kalimaï et permettent d'accéder à Kali, Brahma et Hanuman dont je vous ai déjà parlé, c'est les deux divinités autour desquelles s'organisent les transformations symboliques aujourd'hui, et Goraya et Sitla qui sont des divinités tutélaires. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que selon l'appartenance, du moins la préférence des divinités, on peut distinguer les basses castes et les hautes castes. Par exemple, les basses castes, on sait qu'elles sont particulièrement sensibles à Di, Saer, Goraya, Parmeswari, c'est-à-dire les divinités tutélaires comme par hasard. Alors, donc, nous avons aussi, à travers ces Kalimaï, décrit les cérémonies. Je ne ferai pas de description cérémonielle dans cette présentation, parce que j'ai choisi de vous montrer autre chose. Mais dans une des cérémonies, nous avons eu la surprise de voir qu'un rite a été célébré selon le rite de Kali, pendant tout un temps, et c'est terminé à la fin par un dédoublement de la communauté des fidèles de ce Kalimaï, et en dehors du Kalimaï a été honoré le dieu du feu, Agni, ce qui veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle des sanatanistes, de rituels sanatanistes et des aryasamajistes. Et nous avons reconstitué l'histoire de ces associations qui sont nées en Inde. Dans d'autres, alors les sanatanistes sont en faveur du sacrifice d'animaux, mais la plupart des sacrifices d'animaux sont abolis dans l'île, c'est considéré comme une pratique sauvage, etc. Mais les rituels puraniques, au lieu de sacrifier des animaux, on coupe des fruits ou des légumes. Voilà. Alors maintenant, je pense vous avoir dit, oui, les adeptes de sacrifice d'animaux. Donc, et ce que je vais maintenant vous démontrer, c'est que la symbolique des Kalimaï est en rapport direct avec de nouveaux rapports sociaux qui sont engagés localement entre les diverses associations religieuses des groupes communautaires installés sur place. C'est maintenant le développement que je vais faire, et j'ai donc choisi de vous parler d'un culte à Maïbourg, une ville située au sud de l'île, qui a été le premier port de l'île à l'époque française. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce qu'était Maïbourg. Prochaine photo, on peut la mettre. En 92, Maïbourg était une ville en pleine transformation où sont venus s'installer des ouvriers parce qu'il y avait tout simplement du travail, une politique d'aménagement de la ville. Ils fabriquaient le ciment et ils étaient là dans la construction. Et puis en 95, une fois les constructions terminées, ces ouvriers du bâtiment n'ont pas quitté l'endroit où ils habitaient, ils sont restés. Mais ils sont entrés dans une période de chômage. à cela s'est ajoutée une partie des ouvriers se sont employés dans l'aéroport qui était en train de se développer. Donc il y a eu un appel de travailleurs à cet endroit qui est tout près de Maïbourg, mais la plupart d'entre eux sont devenus chômeurs. À cela s'est ajouté, la situation s'est aggravée aussi pour les créoles qui sont des pêcheurs et qui avaient l'habitude de pêcher au port de Maïbourg, et est venue une juridiction qui interdisait la pêche à l'entrée des ports. Donc que ce soit les créoles et les ouvriers tamouls, il y a une période extrêmement difficile à partir de 1995. Ils habitaient la ville noire, et la ville de Maïbourg a pris de plus en plus l'aspect d'une cité où vivait un ensemble de familles tamoules et créoles de conditions modestes, dont certaines parfois étaient à la limite de la survie. Dans ce contexte-là, la communauté tamoule est entrée en conflit avec la communauté hindoue. Et ça s'est manifesté à travers le culte Kalimaï. Ce culte Kalimaï que vous voyez en photo, c'est une boutique chinoise de commerçants chinois qui est transformée en lieu de Kalimaï, dans lequel se trouve l'hôtel qui est ici. Alors, la communauté tamoule a revendiqué, du fait de l'apport de population qui venait prier dans le Kalimaï et non pas dans le temple tamoul en face, ont revendiqué de rénover le Kalimaï pour qu'il puisse venir prier plus à l'aise dans un grand espace. Et l'autorisation a été demandée à l'État, puisqu'on est sur des pas géométriques, c'est-à-dire des terres qui sont gérées par l'État, qui ne sont pas, ils ne peuvent pas être vendus, etc. Il faut une autorisation pour pouvoir installer une quelconque construction sur ces terres qu'on appelle, entre guillemets, les pas géométriques. Et donc, ils ont obtenu cette autorisation dans l'exacte mesure pour que un des membres des fidèles de ce Kalimaï était fonctionnaire du logement, donc par la voie personnalisée, etc. Donc ils ont obtenu cette autorisation de construire un nouvel édifice, enfin de rénover le Kalimaï, et les ouvriers ont commencé à venir pour déraciner l'arbre. Alors l'arbre, on le voit ici, c'est cet arbre-là, hein. Il y a deux arbres. Cet arbre-là, ils ont voulu, le Hor, c'est l'arbre où sont abritées les divinités tutélaires. Le gardien du Kalimaï, qui habite la maison ici, qui est de basse caste, s'est insurgé et en a appelé à son association Sanatan Dharma Temple Federation, à la Fédération de Port-Louis, pour leur demander d'intervenir. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? La fédération a eu une position totalement attentiste, a laissé faire construire le nouveau Kalimaï et a décidé de construire donc le temple tamoul, le Kalimaï, la rénovation du Kalimaï par les tamouls a été faite sous le premier arbre, et sous le deuxième arbre a été construit un nouveau Kalimaï. Les divinités ont été déplacées et le changement qui apparaît, et donc prochaine photo, le changement qui apparaît, c'est cette photo-là, où vous voyez, ça c'est Brahma, le drapeau blanc qui symbolise la présence de Brahma, et prochaine photo, le nouveau, non, alors il faut glisser la photo parce que je crois qu'elles sont ensemble. À côté de cette photo, il y a une autre photo, il y a l'autre photo du Kalimaï, elle est comme ça. C'est dans une même page. Elle est trop grande, cette photo. Non, là, non, avant. Là, cette photo, il faut réduire la photo. Donc, d'un côté, on a ici Brahma, symbolique de Brahma. Et ici, vous avez le Kalimaï reconstitué par la fédération, la Sanatana Dharma Temple Federation, avec clôture, un mur en béton qui sépare l'habitation du gestionnaire de l'ancien Kalimaï de basse caste. Et donc, la fédération hindoue s'est appropriée, donc les hautes castes se sont appropriées l'endroit en brahmanisant le lieu de Kalimaï. Or, Brahma n'est pas une divinité intrinsèquement liée au Kalimaï, historiquement parlant. Donc, c'est une innovation. Et, et la prochaine photo, qu'est-ce qu'on construit donc, la prochaine photo, c'est celle-là. Avant celle-ci. Je n'ai pas les mêmes. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, alors, je montre. Voilà ce que la communauté tamoule a construit un énorme édifice. Vous voyez l'importance de l'édifice. J'ai pas pu prendre la photo parce que c'est sur un angle complet. On n'a pas de champ de vue suffisant. Et à l'intérieur de l'espace, en dehors du temple lui-même, il y a plein de divinités où peuvent prier des fidèles de différentes obédiences. C'est-à-dire que la communauté tamoule se fait le fédérateur des autres communautés où se jouent des rapports intercommunautaires, tandis que la communauté hindoue valide la domination de caste. Alors, ce changement, donc cette brahmanisation du Kalimaï de Maïbourg, après séparation des lieux de culte tamoul et hindou, est le produit du contrôle et de la gestion du culte local par la fédération. Donc l'attentisme de la société de la fédération était volontaire, et c'est une pratique courante lorsqu'il y a conflit, c'est constamment des stratégies d'évitement des conflits. On ne fait pas éclater un conflit. Ça, c'est une spécificité, une valeur de cette société qui ne s'attaque pas frontalement au conflit. On contourne l'affaire, on donne le temps au temps, attentisme, évitement du conflit, et ensuite on reprend le contrôle. C'est-à-dire, on remet de l'ordre dans les rapports sociaux, ce qu'on appelle le bon ordre, hein, la normativité. Et là, effectivement, l'hindou de basse caste, il a été repris dans la domination de caste. Et ça s'est traduit, donc non seulement le gardien du Kalimaï de basse caste n'a pas eu le soutien de sa fédération vis-à-vis de la communauté tamoule, mais l'espace qui était autrefois ouvert de sa maison qui donnait sur la route avec un joli Kalimaï, etc., a été fermé par un mur en béton pour séparer sa résidence de l'espace cultuel. Il n'y avait pratiquement pas d'espace. J'ai des photos où je montre vraiment, il est enfermé dans son truc de béton. Hein. Et en même temps que ce processus s'est joué, il y a eu privatisation des terres à côté qui n'étaient pas occupées, puisque ce sont des pas géométriques. Et alors, qui mieux que le prêtre de la communauté tamoule pouvait construire sa résidence principale sur les terres? Et qui mieux que le médiateur hindou, qui était de haute caste, qui a obtenu l'autorisation pour les tamouls de construire, de rénover le Kalimaï, qui pouvait construire sa résidence principale à cet endroit. Et ce sont de très belles villas. Donc on voit que cet espace a été complètement réapproprié et bouclé, et les rapports, si vous voulez, les inégalités économiques se sont articulées à toute une symbolique et une domination sociale historique que sont les rapports communautaires avec un jeu intercommunautaire et segmentation des différentes communautés autour de leur divinité, hein, chacun pour soi, et de l'autre côté, intégration autour de la caste. la domination de caste. Ça, c'est donc un quartier de Maïbourg. Le deuxième quartier que je voudrais vous montrer, alors enfin l'autre photo qu'on voyait tout à l'heure, c'est la transformation du quartier de Trangbar, qui est la circonscription électorale numéro 4, dite du War 4 à Port-Louis. Hein? Voilà le Calimaï initial que nous avons visité en 1992. J'oubliais de vous dire que chaque photo a été prise à des moments différents, bien sûr. Alors, cette photo, c'est simple, je ne l'aurais pas prise, elle n'existe plus. Hein. Toutes ces photos, ça a disparu maintenant. Hein. Donc, d'où l'intérêt de cette étude. Donc, voilà le petit Calimaï qui était déjà un Calimaï restauré. Ce Calimaï a été fondé en 1957 par une famille fondatrice qui était installée depuis longtemps dans la région. Nous sommes également sur des pas géométriques parce que nous sommes au pied de la colline de la montagne des Signaux. Hein, et ils font partie des pas géométriques. Donc cette famille a demandé, selon la loi de prescription, a obtenu la propriété des terres où ils habitaient comme propriété privée. Alors, cette loi de prescription de 48, on affiche, si vous voulez, pendant 15 jours, la demande de d'immatriculation. Et si pendant 15 jours, personne n'a réclamé, il n'y a aucun conflit qui apparaît entre les familles, les voisins, etc., elle est attribuée par l'État à la personne. Cette personne est de communauté Veyche, donc de haute caste, et a fait venir donc ce quartier qui était très peu construit, s'est développé en très peu de temps, et il a fait venir toute sa parentèle, c'est-à-dire donc les segments, les familles élargies sont venues pratiquement quatre rues de ce quartier de Trangbar, qui est le beau, on pourrait dire entre guillemets le beau quartier de Trangbar. Quatre rues sont composées de résidents de la même famille, identifiés à la caste Veyche. À côté de ce sous-quartier dont entre guillemets le beau quartier de Trangbar, il y a un autre quartier populaire qui est de la même circonscription, qui est derrière. Vous voyez ici, par derrière, il y a des bâtiments là ici. C'est ce qu'on appelle le quartier dit Bangladesh. Bangladesh, qui symbolise bien sûr des populations déshéritées, de conditions très modestes. Historiquement, ce sont des créoles qui se sont installés d'abord avec des tôles, sans demander l'autorisation à l'État, et on les qualifiait de squatters. Ce quartier, comme le quartier, le beau quartier, comme on pourrait dire, a également une croissance démographique très importante par l'arrivée de migrants rodriguais qui se sont installés, d'abord des femmes qui ont été les femmes de ménage des familles hindoues plus aisées, chinoises ou musulmanes. Et puis après, dans une seconde vague, sont venus les hommes, leurs maris, enfin les familles se sont reconstituées, et les hommes ont travaillé dans la zone franche de Plaine-Lauzin, qui est tout à côté. Donc on a un quartier populaire d'un côté et un quartier plus aisé de haute caste. Et là au milieu, le Calimaï fondé par la famille d'origine Veyche qui est là. Et déjà en 92, les parpaings sont là et on va construire, maintenant, on va rénover le Calimaï. Cette petite niche, là, rouge, c'est la niche où se trouvait Hanuman et dont vous verrez, dont je vous ai montré au tout début la photo, Hanuman. On peut prendre l'autre planche. Voilà, si on... celle qui vient après. Non, ça c'est avant. Voilà, ça devrait être ça. Après celle-ci. Elle est dans l'ordre, je crois. Voilà. Donc si on peut la placer un tout petit peu plus vers le côté, c'est... Ah oui, c'est moi qui fait bon. Alors voilà, le Calimaï. Donc ça, c'est année 99, ça, c'est année 2004. Donc voilà les photos que je... Moi, je suis simplement un photographe, je n'interviens pas hein, là-dessus. Donc en 1999, une société, après 1957, se forme la Société du Calimail. Et ils demandent des subventions. Oh là là, on voit rien. Bien. Pardon. Ah, c'est mon papier. Oh, désolé, excusez-moi. Bon, alors voilà, voilà la forme de ce calimail. À l'intérieur de cette structure, vous avez le petit calimail que vous avez vu au début. Bon, mais quel est le changement qui s'est produit? Le changement qui s'est produit, c'est que Hanuman va entrer dans le calimail en position de divinité supérieure. Et là, on va voir. Donc, et là, en 2004. Le calimail, donc vous voyez cette structure est encore une nouvelle structure apparaît avec toute la presque la qualité d'un temple. De nouveau des parpaings qui vont être utilisés pour construire d'autres temples. Je continue 2004. Ensuite, la prochaine photo, on va voir à l'intérieur de 1999-2004, on a maintenant l'hôtel de Kali à l'intérieur de ce temple. Voilà, l'hôtel de Kali, vous avez Hanuman ici sur le côté, et vous avez ici la petite divinité de Shiva à côté. Et ça, c'est un indicateur de ce que ce Kalimai qui se transforme en quasi-temple va devenir un temple, un Shivala, un temple dédié principalement à Shiva à terme. Après, on voilà. Voilà le Hanuman de début qui était dans la niche, mais voilà le deuxième Hanuman que vous voyez un petit peu une espèce de grande divinité qu'on voit la réverbération de bon. Et après, on fait la prochaine photo. On voit voilà le temple de Hanuman qui est construit. Donc, il entre dans le Kalimail. Et il reprend son autonomie une fois le temple construit et on a un temple de Hanuman. Or, il n'existe pas de temple de Hanuman. Et le troisième temple qui va être construit est le temple de Brahma. Alors, il faudrait passer les autres photos, mais il y avait le temple de Brahma sur la colline un petit peu plus en hauteur. Donc, voilà le processus de transformation. Ce processus s'opère entre 1992 et 2009. Là, on est en 2004, mais vous allez voir ce qui s'est passé en 2009. Ça, c'est le fin du fin. 92, donc on a cette transformation avec l'émergence de nouveaux temples. Hanuman et Brahma. Mais en même temps que ceci se produit, on va voir ce qui se produit autour de la divinité Di, qui est partie intégrante du Kalimai, comme toujours. La divinité Di, c'était cet arbre en 92, qui était juste avant le petit Kalimai, le Kalimai ancien que je vous ai montré, c'est juste avant. Là, on voit bien que cet arbre est l'objet, est fréquenté, on fait des offrandes, mais sans plus. En 1999, regardez ce qu'est devenu l'arbre. Il est rempli de ex-voto. Ces ex-voto, ce sont des capsules de limonade ou de Coca-Cola. À l'intérieur, on met des noms, etc., qui correspondent. Soit on veut du bien aux gens, soit on leur veut du mal. Donc, c'est aussi un lieu de sorcellerie ou de divinité. Donc, c'est l'un et l'autre à la fois, mais on ne sait pas quoi. Et en 2004, donc, de la même manière que dans les groupes plus aisés, la communauté hindoue plus aisée, vous avez un gain institutionnel et bien sûr, chacun selon ses moyens, ils ont édifié un quasi petit temple autour de l'arbre avec un truc en béton, la petite niche en béton et vous voyez qu'elle est très fréquentée toujours. Maintenant, je reviens l'année dernière en 2009, la prochaine photo, et voilà le fin du fin. Et ça, c'était une hypothèse que nous avions formulée au départ. Voilà ce qu'est devenu la devise. Moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ça. Je peux vous dire, là, j'ai vraiment... j'ai dit, à la fois, ça me fait plaisir parce que j'avais raison, Donc l'hypothèse avait été formulée de l'exclusion de la communauté créole, de la population, du quartier populaire de cet endroit. Et là, ils ont clôturé par un fil de fer, interdit. Donc cet endroit existe toujours, mais il est entré en déshérence. En même temps qu'ils ont fait ça, ils ont bouclé, il y avait un chemin d'accès direct du quartier par derrière, et le quartier, un chemin d'accès direct, c'était très près géographiquement de l'endroit pour arriver directement plutôt que de faire le grand tour. En même temps, on a mis une barrière en béton pour rendre impossible l'accès direct du quartier populaire Bangladesh à ce lieu de divinité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fermeture communautaire de nature à la fois classe moyenne et haute caste. Parce que vous avez un temple de Shiva pour la partie des hautes castes du quartier nouvellement où les gens se sont installés. Le temple de Hanuman est aussi... vraisemblablement pas forcément des hautes castes, d'ailleurs pour Hanuman, et le temple de Brahma est à venir. Donc vous avez une segmentation sociale, une fermeture communautaire et une exclusion de la catégorie des créoles. Et ça, c'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait dramatique. Et quand on interroge, quand on regarde les dernières élections qui ont eu cours à l'île Maurice, c'était des élections d'un endroit, la fermeture castéiste est encore est marquée du point de vue électoral. Donc, tous ces lieux de culte sur lesquels j'ai travaillé, j'ai aussi fait, et là, je vous passerai, je n'ai pas le temps de le présenter, mais nous avons fait la même corrélation avec l'historique de l'évolution des élections depuis 1967 jusqu'à 2005, à l'époque où j'avais encore des élections. Et on a présenté tout cela comme un tableau et on a vu l'évolution des différenciations caste, classe, raciale. Et qui nous permettait donc d'introduire le dernier chapitre sur le New Deal, la dernière partie. Donc voilà ce que je peux vous montrer. J'ai voulu être un peu concrète pour bien montrer que ce travail n'est pas un travail qui est un travail sur indirect, sur source, etc. Tout l'imaginaire qui a été, toute la construction intellectuelle de ce travail, elle vient d'une pratique totalement empirique, au départ ne connaissant rien de la religion hindoue. Et je dirais même plus, je ne sais pas si je connais encore très bien la religion hindoue, ce que j'ai compris, c'est des choses assez générales. Hein? Ce que j'ai compris, c'est ce système galactique. Ce que j'ai compris, c'est l'importance des divinités et le colloque singulier qui existe entre les fidèles et la divinité. Mais bon, ce que j'ai compris aussi, c'est que le rapport à la Terre est un rapport de type collectif et pas du tout de type individuel, et que le fonctionnement social, d'une manière générale, est de nature collective. Finalement, dans la société indienne, sans association, si vous n'avez pas d'appartenance associative, vous n'avez pas d'existence sociale. Donc tout le monde est plus ou moins affilié à au moins une association, en général. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Et pour la généralisation, je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage qui va paraître dans 3 semaines, je pense, et qui sera disponible à la librairie Sorrentz. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.